et même le rôle de la science dans l'argumentaire du nouvel athéisme. Pour aller un tout petit peu plus loin, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, il y a plusieurs formes d'athéisme, il y a plusieurs argumentations athées, et ce qui m'a été demandé, c'est donc d'essayer de parler, puisque finalement c'est plus compliqué que ce que je pensais, du rôle de la science, ou de la place de la science, dans l'argumentaire du nouvel athéisme. Robin, je crois, ce matin, a mentionné les quatre cavaliers de l'Apocalypse, du nouvel athéisme. Personne ne dit qui est la mort et qui est la peste dans ces quatre cavaliers, mais bon. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris et Daniel Dennett. Dennett est souvent celui qu'on connaît moins. Il sera beaucoup question de Richard Dawkins, puisque c'est lui qui finalement fait office de vrai scientifique dans ces quatre auteurs, puisque la plupart ont une formation parfois assez diverse. Je crois que Sam Harris a une moitié de formation scientifique cependant. Donc je citerai assez régulièrement Richard Dawkins quand je pourrai, quand j'aurai le temps, j'agrémenterai avec la citation des autres auteurs. Alors, une toute petite mention sur le nouvel athéisme, qui est finalement assez difficile à définir avec précision. Il y a pas mal d'écrits quand même dessus. Donc, dans le milieu anglo-saxon, il s'agit de ces quatre auteurs-là. Sachant que le nouvel athéisme étant un petit peu flou, on pourrait essayer de définir un petit peu d'autres auteurs. Par exemple, en francophonie, Michel Onfray, Jean Solaire pourraient vaguement se rattacher au nouvel athéisme, qui est beaucoup plus agressif et militant que l'athéisme des années 60-80, est beaucoup moins disposé à dialoguer avec le christianisme. Grande différence, par exemple, entre un Michel Onfray, Richard Dawkins et un Camus qu'on a cité ce matin. À savoir aussi que le nouvel athéisme est assez divers, qu'on peut même distinguer, en fait, au sein du nouvel athéisme, une tradition anglo-saxonne qui est beaucoup plus focalisée sur la science, essentiellement biologie et physique. Donc, ils vont essayer d'utiliser au mieux les arguments, en tout cas, soi-disant, arguments tirés de la biologie et de la physique. La tradition continentale, française, allemande, beaucoup plus tournée vers la philo, particulièrement beaucoup plus existentielle. Bon, même s'il faut moyenner tout ça un petit peu, hein, par exemple, tradition continentale va utiliser certaines données des sciences humaines, même si Michel Onfray attaque assez violemment tout ce qui vient de la psychologie, hein, comme on l'a vu avec son bouquin sur Freud. Pour commencer, donc ce que je voudrais faire dans les 40 minutes à peu près qui me sont allouées maintenant, c'est non pas me pencher sur les types d'arguments qui sont utilisés, parce que finalement vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments vraiment scientifiques qui sont utilisés dans le nouvel athéisme, mais c'est de voir plutôt le problème de l'utilisation de la science dans le nouvel athéisme. Donc je soulignerai trois problèmes, et après on essaiera d'en tirer deux, trois conclusions. Alors, une petite précision ici, je pense que le nouvel athéisme fait une très mauvaise utilisation de la science dans l'argumentaire en faveur de l'athéisme. Ça ne sous-entend pas que toute leur science est mauvaise. Donc ça ne juge pas, par exemple, des travaux de Dawkins concernant l'évolution darwinienne. Ce sont les travaux qu'il a proposés bien avant d'être l'un des grands apôtres du nouvel athéisme, hein, dans les années 70-80. Là, il est vraiment question de la place que leur science a dans l'argumentaire en faveur de l'athéisme. Et donc, on va en fait laisser certains de leurs travaux purement scientifiques de côté, parce que finalement, ils n'utilisent pas vraiment ces travaux dans leur argumentaire. On va plutôt voir que leur argumentaire, qu'ils utilisent dans leur grand livre, censé démontrer la non-existence de Dieu, que Dieu est une aberration, ou que l'athéisme est la seule interprétation possible et correcte, notamment de la vie, finalement, fait peu usage, peu cas de la science. Commençons par remarquer que si la science tient, en tout cas de loin, une telle importance dans l'argumentaire du nouvel athéisme, c'est que pour la plupart de ces auteurs-là, de ces quatre auteurs, donc on va plutôt se diriger vers cette tradition anglo-saxonne, la question de la religion et donc de l'existence de Dieu est une question essentiellement, alors au sens pas d'importance mais d'essence, c'est essentiellement une question scientifique. Et là, pour citer Dawkins, la présence d'une super-intelligence créatrice est, de manière univoque, Donc c'est un mot très important pour Dawkins, hein, de manière univoque, une question scientifique. Donc soit on pose la question de Dieu et c'est une question scientifique, soit on ne pose pas la question de Dieu. En quel cas, on tombe dans un fidéisme. Même si c'est une question qui, conclut-il, en pratique, n'a pas été résolue, ou du moins, pas encore. La science, donc, en tant que vecteur de connaissance, est censée être, on va le voir, seule capable de légiférer sur l'existence ou non de Dieu et sur la valeur de la religion. Et en fait, avec tout cela, on voit, de la part du nouvel théisme, une reprise de ce vieux, de cette vieille opposition radicale entre science et foi. Et donc là, pour citer Saint Maris, qui dit ceci, « La vérité, cependant, c'est que le conflit entre la religion et la science est inévitable. » Donc, pour le nouvel théisme, pareil, radicalité de l'opposition, c'est science ou religion. Il n'y a pas de choix, finalement. Il n'y a pas de résolution possible. Éviter tout concordisme, ceci est peine perdue. Alors, force est de constater que cette conviction, finalement, détermine, ou même prédétermine, toute la direction de l'argumentaire du nouvel athéisme. C'est finalement, donc on a utilisé le mot ce matin, Romain l'a utilisé aussi, c'est finalement l'un des points de départ du nouvel athéisme. Cette opposition est radicale, elle est nécessaire, et finalement, tout cela conditionne l'argumentaire. C'est pour cela, finalement, tout cela conditionne aussi la mauvaise utilisation de la science qu'ils font dans leurs ouvrages. Premier problème donc, qui apparaît dans l'utilisation de la science par le nouvel athéisme, c'est celui de leur définition même de la science et de ce que nous pouvons raisonnablement attendre de la science. Qu'est-ce que la science? Que peut-elle nous dire? Quelle information nous procure-t-elle? Commençons avec une petite définition de la science d'après nos auteurs, et notamment Dawkins, pour lequel le but de la science est clair, c'est, je cite, « de découvrir des vérités importantes à propos de la réalité ». A priori, jusque-là, pas de problème. Hein. La science a comme but de découvrir des vérités importantes à propos du monde dans lequel nous nous trouvons. A priori, nous sommes tous d'accord. Mais par contre, Dawkins ne définit précisément ni la notion de vérité, comment connaître la vérité, ni celle de la réalité. Finalement, qu'est-ce que la réalité que nous pouvons connaître? La conclusion n'en est pas moins claire. La méthode scientifique est le moyen privilégié de connaître vraiment le monde tel qu'il se présente à nous. Harris, lui, va plus loin et confirme que la science, je cite, « représente nos meilleurs efforts de compréhension de ce qui est vrai ». Donc là, vous voyez, on va un degré plus loin. La science n'est pas simplement un moyen de découvrir des vérités à propos du monde, c'est le meilleur moyen de découvrir les vérités à propos du monde. Donc déjà, la science, et là principalement pour eux, donc biologie, physique, mais chez des amis mathématiciens, les maths n'ont quasiment aucune place dans leur argumentaire, donc désolé. Même si les amis mathématiciens me feraient remarquer que les mathématiques sont peut-être la seule vraie science exacte. Mais ça, c'est un débat entre scientifiques. Hein. Mais les maths n'ont quasiment pas de place. Hein. A priori, on pourrait penser que toutes ces définitions de la science ne posent aucun problème. Mais en y regardant un petit peu de plus près, on y distingue un scientisme assez radical. Et par scientisme, donc, on peut comprendre ce qu'Ernest Renan, donc déjà à l'époque, en disait, c'est-à-dire la volonté d'organiser scientifiquement l'humanité. Donc la prétention d'organiser tout le monde. En d'autres termes aussi, le scientisme est une position qui affirme que la science, et la science seule, peut décrire le monde tel qu'il est, et ceci indépendamment d'une perspective particulière, nous dit Daniel Dennett. Donc là aussi, on va encore plus loin. La science seule peut décrire le monde tel qu'il est. Donc ce n'est plus la science première d'entre d'autres moyens de connaissance, mais la science est la science seule. Donc tout est scientifique, ou tout du moins devrait l'être. D'ailleurs, pour Dawkins, donc lui n'hésite pas à conclure même que finalement, la science devrait être et le seul sujet d'une bonne écriture. Donc si vous voulez écrire quelque chose d'intéressant, le seul domaine sur lequel il faut écrire, c'est la science. Donc si vous vous intéressez à autre chose, ce n'est pas forcément digne d'une bonne écriture. La science, donc, seul moyen pour découvrir la vérité au sujet du monde. Tout autre moyen est au mieux illégitime, au pire absurde. Une autre question se pose alors, quelle est la portée de la science? Que peut-elle connaître si elle est le seul moyen de connaissance? Finalement, concernant cette question, le nouvel athéisme prend aussi une approche radicale. Alors qu'on dit souvent que la science ne peut rien dire à propos de certaines vérités qui la dépasseraient, et je crois que ça, certains des intervenants des deux dernières conférences l'ont bien sous-entendu finalement, Dawkins, lui, indique explicitement que la science explique non seulement le comment du monde, mais aussi le pourquoi. Donc, à la différence, encore une fois, de certains scientifiques ou théologiens qui disent que finalement, la science ne peut pas expliquer le pourquoi du monde, pourquoi le monde en est venu à ce qu'il est, Dawkins n'hésite pas à conclure. La science partage avec les religions la prétention à répondre aux questions les plus profondes, comme celle des origines, de la nature, de la vie, la raison du cosmos. Mais bien sûr, les ressemblances s'arrêtent là. Pour aller plus loin, Dawkins est donc d'opinion que si la science elle-même ne peut pas nous dire si quelque chose est vrai, rien d'autre ne le pourra. Et lorsqu'on lui réplique que finalement, il y a des choses qui sont trop complexes, qui sont au-dessus de la science, par exemple le transrationnel de ce matin, pour Dawkins, si quelque chose est transrationnel, ce n'est pas rationnel. Si ce n'est pas accessible à la science, alors cela n'existe pas. Si quelque chose existe, cela doit être nécessairement, je souligne, nécessairement accessible à la raison humaine. Donc vous voyez là, pour parler de scientisme, il y a une absolutisation radicale de la science, notamment de ce qu'elle peut faire et de sa place particulière dans les moyens de connaissance. Donc imagination et philosophie, finalement, cèdent la place à la science. Mais si je voulais résumer un petit peu ce scientisme-là, donc du nouvel athéisme, ce n'est pas vraiment vers Dawkins ou Harris qu'il faudrait se tourner, mais vers un autre biologiste et scénisticien américain, Richard Levantine, donc qui est peut-être moins connu à part des spécialistes dans le domaine, mais qui est moins connu du grand public, et qui pourtant écrit cela. Le problème principal de leur point de vue n'est pas de donner au public la connaissance de ces informations scientifiques, donc ce n'est pas de promouvoir ou de généraliser la connaissance scientifique, ce qui pourtant est un but louable en soi, je trouve, mais de faire accepter un apparatus, c'est-à-dire un système social et intellectuel, la science, donc la science avec une majuscule, la science comme seul vecteur de vérité. Donc là, vous voyez aussi, ça vaut la peine d'être répété quand même, la science, avec une majuscule, la science, comme étant le seul moyen de connaître la vérité. Ce genre de conclusion, donc, conduit à des réactions très fortes, que ce soit de la part de philosophes théistes ou athées. Hein. Certains philosophes scientifiques athées considèrent que finalement cette affirmation des quatre cavaliers de l'Apocalypse, franchement, j'y arriverai pas, du nouvel athéisme, sont problématiques. Michael Ruse, par exemple, philosophe athée, s'est ouvert assez publiquement de son opposition à Dawkins et Dennett, qui pour lui compromettent l'intégrité même de la science. Vous voyez, critiquer l'utilisation de la science dans l'argumentaire du nouvel athéisme n'est pas particulier aux théologiens ou aux théistes. C'est aussi quelque chose qui vient d'autres auteurs qui partagent un athéisme fondamental, mais qui considèrent que l'utilisation de la science dans le nouvel athéisme est une atteinte à la science elle-même. Ce qui finalement est la conclusion de beaucoup de scientifiques et de théologiens. L'impression générale donc, qui se dégage à la lecture du nouvel athéisme, c'est que la moindre indication d'une limite portée à la science, le moindre soupçon d'une limite inhérente à la connaissance scientifique, est taxé d'ignorance religieuse. La science peut et donc doit tout et va tout connaître. C'est tout à fait évident. Sous-entendre que la science ne pourra pas, même avec l'amélioration des moyens scientifiques ou technologiques, que la science ne pourra pas tout comprendre dans notre univers, c'est courir le risque de se retrouver classé parmi les bigots invertébrés convaincus que la Terre est plate. Christopher Hitchens sous-entend cela très clairement. Cependant, il faut bien remarquer que cette direction-là du nouvel athéisme est très mal prise. Cette position-là est très mal prise même par les philosophes et scientifiques athées, dont beaucoup même sont convaincus de la limitation inhérente de la science, Pourquoi ? Parce que la réalité elle-même ne peut pas être totalement comprise par des moyens scientifiques. Et là, je vous passerai les deux, trois exemples parce que le temps va passer. Mais, par exemple, on peut être que frappé dans l'argumentaire. Donc, je suis convaincu que le nouvel athéisme, ces auteurs-là, connaissent bien toutes les théories qui essaient d'expliquer les limites inhérentes de la science. Ce matin, on nous a parlé du principe d'incertitude, d'incomplétude, etc. Je suis bien convaincu qu'ils connaissent à fond ce sujet-là bien mieux que moi. Le fait est que dans leur argumentaire, tous ces principes-là disparaissent. Ou, par exemple, les désormais classiques structures scientifiques de Kuhn disparaissent, jamais mention dans aucun des livres, ou même d'un philosophe qui mériterait plus attention, et dont certains ici parlaient mieux que moi, donc Michel Polanyi, qui suggère que finalement, il y a un cadre épistémologique personnel, d'où la conclusion que toute connaissance finalement est personnelle, pas relative, mais essentiellement personnelle. Tout ça pour souligner que toutes les théories essayant d'expliquer pourquoi notre connaissance scientifique est de manière inhérente limitée, toutes ces théories-là sont passées sous silence par le nouvel athéisme, parce que suggérer de telles limites est profondément inacceptable. Donc, de cela, le nouvel athéisme ne prend pas la portée. Alors, certains ont conclu ici que le nouvel athéisme faisait, de toute évidence, preuve de mauvaise foi, voire de malhonnêteté. Et je ne conclurai pas dessus, parce que je suis incapable moi-même de juger l'attitude d'un Dawkins ou d'un Dennett, qui parfois, effectivement, hésite entre les deux. Le fait est que leur première utilisation de la science, c'est ce fameux scientisme, l'absolutisation de la connaissance scientifique. Deuxième problème, et je vais essayer d'être un peu plus rapide dans les minutes qui viennent, le deuxième problème qui ressort de l'utilisation de la science donc dans cet argumentaire athée, c'est leur évidentialisme. Alors, évidentialisme, non pas dans le terme philosophique ou apologétique. Dans l'apologétique, on parle d'évidentialisme lorsqu'on dit, finalement, l'une des preuves ou comment démontrer l'existence de Dieu, c'est par les preuves que nous y apportons, et pas dans le sens d'évidence. Dieu est évident. Évidentialisme, en apologétique, est un mauvais anglicisme. Mais leur évidentialisme, c'est-à-dire leur utilisation de la notion de preuve. Pour le nouvel athéisme, il faut prouver, et la preuve est uniquement scientifique. Donc, l'un des premiers problèmes avec leur utilisation de la preuve, c'est que finalement, elle se suffit à elle-même et qu'elle doit être scientifique. Donc, si vous voulez prouver quelque chose, c'est uniquement par la démarche scientifique. Donc, on revient au scientisme. Une seule notion de preuve. Et finalement, là, on revient à ce mot que Dawkins utilisait, il y a univocité de la preuve. C'est un terme qui est utilisé dans un seul sens. Il n'y a pas plusieurs types de preuves. Il y en a un seul, qui est de type scientifique. Toute autre preuve est une fiction, finalement. Donc, on oublie là aussi la cohérence d'un système comme étant une preuve en soi. La cohérence d'un système n'est pas une preuve pour eux. Malgré tout cela, donc, cette univocité de la preuve est visible. Malheureusement, encore une fois, le nouvel athéisme utilise assez peu de théories scientifiques pour soutenir l'argumentaire. Très étrange, puisqu'on considère, et Dawkins considère souvent, que la science est première dans le moyen de connaissance. On pourrait s'attendre alors que, pour prouver la non-existence de Dieu, Dawkins utilise en majorité des arguments purement scientifiques. Finalement, il n'en est rien. On pourrait quand même voir l'utilisation de la preuve, cette problématique-là, chez Hitchens, dans la manière dont il interprète le texte biblique. Donc là, vous voyez, je ne parle pas de l'argument scientifique, mais de la manière dont il interprète le texte, d'une manière très univoque, donc je m'explique, et il cite ceci, donc dans son livre... et en français, Dieu n'est pas grand. Soit les évangiles sont dans un sens littéralement vrais, ou tout l'ensemble n'est qu'une fraude et peut-être même immorale. Vous voyez là le problème. Peut-être je le répète pour que vous voyez le problème. Soit les évangiles sont littéralement vrais, soit ils ne sont qu'une fraude. On parlait de dilemme ce matin, je me suis laissé enfermer dans un dilemme, soit. Pareil ici. Donc, soit les évangiles sont littéralement vrais, soit ils sont faux. Problème. Hitchens, et tous les autres avec lui, considèrent que finalement, l'interprétation biblique doit être de manière univoque, donc c'est-à-dire de manière homogène, littérale. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule moyen, qu'une seule manière d'interpréter l'Écriture. Donc, pour ceux qui lisent leur Bible régulièrement, oubliez tout ce qu'on vous a peut-être dit en étude biblique, où on interprète un texte biblique en fonction de son genre, de l'époque, etc. Pour le nouvel athéisme, il y a une preuve unique qui est la littéralité. Et finalement, cette application de la preuve, de la notion de preuve ou d'univocité au texte biblique est reportée à la science. Sauf que dans la science, il y a une seule preuve scientifique qu'on utilise pour toute chose. L'un des autres problèmes du nouvel athéisme, donc dans l'utilisation de la science, encore une fois, c'est son échec à distinguer deux verbes ou deux actions, c'est-à-dire prouver et justifier. Justifier une croyance, ce n'est pas nécessairement la prouver. Donc cela, je vous renverrai peut-être vers d'autres auteurs, notamment anglo-saxons, comme Alvin Plantinga, qui distingue deux actions. La preuve, qui est une démonstration de rationalité d'une affirmation, dire prouver que l'existence de Dieu, ou de dire Dieu existe, est rationnel, et le justifier, c'est-à-dire donner tout un ensemble de faits qui soutiennent l'existence de Dieu. Donc, il y a la démonstration de la rationalité de la foi, avec des preuves, et la justification de cette foi-là, qui en fait dépasse les preuves rationnelles, et qui inclut beaucoup d'autres choses, notamment la dimension existentielle de la foi. On pourrait dire aussi que le nouvel athéisme n'arrive pas à distinguer entre deux expressions, l'absence absolue de preuves, aucune preuve, et l'absence de preuves absolues. Pour le nouvel athéisme, et je pense que ça c'est assez crucial dans leur démarche scientifique, pour le nouvel athéisme, quelque chose est vrai si et seulement si il y a une présence de preuve absolue. Donc il y a une preuve absolue, c'est vrai. S'il n'y a pas de preuve absolue, c'est faux. Or, qui pourrait prétendre qu'il y a des preuves absolues, surtout si on considère comme absolu ce qu'on a entendu ce matin. Donc, encore une fois, le nouvel athéisme n'arrive pas à distinguer l'absence absolue de preuves, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve, jamais, on ne pourra jamais avoir de preuves, et l'absence de preuves absolues. Il y a des preuves en faveur de l'existence de Dieu ou de la foi, mais ces preuves sont relatives, et c'est l'ensemble des preuves, donc la cohérence de toutes ces preuves-là, qui fondent notamment la justification de la foi. Donc, échec à distinguer ces deux expressions. Autre problème, et celui-ci me paraît presque le plus important, c'est que pour le nouvel athéisme, pour la plupart d'entre eux, il y a vraiment l'idée très présente selon laquelle une preuve est quelque chose qui n'est jamais interprété. C'est-à-dire que la preuve, c'est ce qui est observé. Ce qui, à mon sens, est une négation même de la démarche scientifique. En démarche scientifique, on ne conclut pas simplement après avoir observé. Il y a toute une méthode à utiliser. Il y a des vérifications à apporter. Ce n'est pas parce qu'on observe qu'on conclut. Il faut démontrer, vérifier, et seulement après conclure. Le problème dans la démarche du nouvel athéisme, c'est qu'on passe trop facilement de l'observation à la conclusion. Et pour ceci, je peux vous donner un petit exemple. Là, je passe assez rapidement. En fait, je vous donnerai l'exemple plus tard. Cette approche, donc, est, à mon sens, aussi naïve que simpliste, hein, de penser que s'il y a une preuve, alors il n'y a pas d'interprétation de la preuve. C'est-à-dire, c'est comme si, et ça Dawkins le sous-entend lui-même, c'est comme si la réflexion scientifique n'existait pas. Si quelque chose est vrai, alors cette observation s'impose à nous. Il n'y a pas de démarche scientifique. Il n'y a pas de réflexion, finalement, dans le nouvel athéisme. Et ceci, donc, Dawkins le sous-entend lorsqu'il parle de la foi, et donc là, on va voir la comparaison, et il s'en prend ainsi à la notion de foi, je cite, « La foi est un état d'esprit qui conduit les gens à croire quelque chose en dépit de l'absence totale de preuves. » Donc, définition de la foi pour Dawkins, très mauvaise définition de la foi, c'est ce qui n'a pas de preuves. On est tous d'accord qu'à ce moment-là, nous n'avons pas de foi. parce que notre foi est fondée sur des raisons qui viennent étayer. Et je continue, donc Dawkins, s'il y avait des preuves, donc écoutez bien, c'est pas ça qui est intéressant, s'il y avait des preuves, la foi serait inutile. Donc les preuves, s'il y avait des preuves, la foi est inutile. Pourquoi ? Parce que les preuves nous contraignent de toute manière à croire. Donc s'il y a une preuve, ces preuves-là, donc l'observation du monde, contraint votre raison. C'est finalement ce que Dawkins conclut ici. C'est la conclusion logique de ce qu'il nous dit. Si quelque chose est observé, s'il y a une preuve, s'il y a une justification de ce que vous croyez, vous êtes contraint à le croire. Ce qui sous-entend, à mon sens, et d'ailleurs Dennett va dans cette direction-là, ce qui suppose notamment l'absence de toute liberté, hein, et d'un déterminisme total. Et Daniel Dennett et d'autres avec lui vont dans cette direction-là. Pourquoi est-ce que ceci est un problème ? C'est parce que ça nie fondamentalement toute place, et de manière assez contradictoire, hein, de manière assez ironique, ça nie toute place de la raison dans l'argumentaire du nouvel athéisme. Si une preuve s'impose à vous et vous contraint, alors la raison n'a finalement rien à dire puisqu'elle n'a pas de place. Et finalement, troisième problème du nouvel athéisme, donc scientisme, la notion de preuve, évidentialisme, et finalement le problème de la méthode scientifique. Et là, je pense que pour Dawkins principalement et pour Samaris avec un arrière-plan scientifique, c'est tout à fait problématique puisque leur utilisation, leur argumentaire même, démontre l'absence de toute méthode scientifique. Alors, encore une fois, cela ne nie pas toute valeur de leur science hors argumentaire athée, mais dans leur argumentaire en faveur de l'athéisme, ils nient toute importance de la méthode scientifique. Pourquoi ? Eh bien, on peut prendre un ou deux exemples. Je prends un exemple et je terminerai cette partie là-dessus. Par exemple, si je prends la démarche argumentaire de Richard Dawkins, donc, qui reflète un réel mépris de la démarche scientifique. Pourquoi ? Parce que Dawkins, très souvent, présélectionne les éléments observés. Dawkins va sélectionner dans la démarche scientifique ce qui va justifier les conclusions de son athéisme. C'est-à-dire qu'il prédétermine déjà les conclusions de la méthode scientifique. Ce qui est une très mauvaise méthode. On ne prédétermine pas les conclusions d'une expérience. Ou alors, si on prédétermine les conditions initiales de toute observation, nous ne sommes plus dans de la science, mais presque dans de l'idéologie. Notamment, pour Dawkins, l'observation c'est « je connais beaucoup de croyants qui sont stupides », conclusion, tous les croyants sont stupides. Ce qui est une très mauvaise manière d'argumenter. On pourrait prendre aussi Sam Harris, donc je prends ces deux-là parce que Harris est l'un des autres nouveaux athées qui a une formation scientifique. Donc lui utilise comme moyen de vérification de ses théories des exemples qui sortiraient totalement d'un cadre expérimental normal, notamment lorsqu'il essaie de montrer qu'il peut y avoir moralité ou que la moralité est définie par le bien-être. Ce qui est éthique, c'est ce qui favorise le bien-être. Ça, c'est la grande théorie de son livre qui s'appelle, en français, je crois qu'il n'est pas traduit, mais qui s'appellerait « L'horizon moral ». Et donc, comment prouve-t-il ceci ? Par un exemple qui se veut simple, qui est celui de la comparaison entre une veuve de guerre affligée de tous les maux et de tous les désastres, et vraiment, mais alors, la pauvre, tout lui tombe dessus. Donc, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, celui d'une femme mariée à l'homme le plus intelligent, attirant, charismatique, qui en plus gagne des millions, ce qui lui permet de venir en aide aux plus démunis. Quel est le problème avec cet argumentation-là ? Le problème avec cette argumentation, c'est que ni la première condition, ni la deuxième, ni celle de la, donc ni la condition de la veuve de guerre à qui tout arrive, ni l'autre condition, celle de la femme mariée à l'homme le plus intelligent, charismatique, riche, etc., aucune de ces deux conditions ne représente une condition initiale équilibrée. ça ne représente pas ce qui serait la moyenne normale de la vie humaine. Si la moyenne normale de la vie humaine, c'était la veuve de guerre à qui tout arrive, ça se saurait. Si la condition normale de la vie humaine, c'était d'être marié à l'homme le plus intelligent, attirant, charismatique et le plus riche au monde, mesdames et mesdemoiselles, ça se saurait aussi. Le problème, donc, c'est que là, pour un scientifique, de prendre des conditions extrêmes comme conditions normales est, à mon sens, une aberration. Alors, peut-être que les scientifiques de profession me contrediront, mais je considère que, finalement, prendre les extrêmes comme une condition moyenne est une erreur.